Chapitre 4. La vengeance de Madame Pratchett. Notre maître entra dans la salle de classe, un morceau de papier à la main. « Les élèves suivants doivent se rendre immédiatement au bureau du principal, » dit-il. « Thwaites, Dahl. » Il lut ensuite le nom des trois autres que j'ai oubliés. Nous nous levâmes tous les cinq et sortîmes de la classe. Sans mot dire, nous nous engageâmes dans le long couloir qui conduisait aux appartements privés du principal où se trouvait le bureau redouté. Thwaites frappa à la porte. « Entrez !» Nous avançâmes furtivement, la pièce sentait le cuir et le tabac. M. Coombs se dressait au milieu, dominateur, gigantesque, tenant entre ses mains une longue canne jaune à poignée recourbée. « Inutile de mentir, je sais très bien que c'est vous et que vous étiez tous complices. Alignez-vous là, contre la bibliothèque. » Nous obtempérâmes, Thwaites devant, et moi, pour je ne sais quelle obscure raison, venant le dernier. J'étais le cinquième dans la rangée. « Vous !» dit M. Coombs en pointant sa canne sur Thwaites. « Venez par ici. » Thwaites s'avança, très lentement. « Penchez-vous !» dit M. Coombs. Thwaites se courba en deux. Les yeux rivés sur lui, nous étions hypnotisés. Nous savions bien entendu que les garçons de temps à autre recevaient des coups de canne, mais jamais nous n'avions entendu dire que d'autres élèves étaient forcés d'assister à ce châtiment. « Plus bas, mon garçon, plus bas !» ordonna sèchement M. Coombs. « Touchez le sol !» Thwaites effleura le tapis du bout des doigts. M. Coombs recula d'un pas et se planta solidement sur ses deux pieds écartés. Le derrière de Thwaites me paraissait si petit et si crispé. M. Coombs ne le quittait pas des yeux. Il leva la canne au-dessus de son épaule et l'abattit avec un sifflement. Puis un bruit sec comme un coup de pistolet retentit quand elle frappa le derrière de Thwaites. Le petit Thwaites sembla sauter de 30 cm en l'air et il hurla « Aïe, 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 aïe !» en se redressant comme un ressort. « Plus fort !» clapit une voix dans un coin de la pièce. Ce fut à notre tour de sauter en l'air. Tournant la tête, nous vîmes, assise dans un des grands fauteuils en cuir de M. Coombs, la petite silhouette exécrée de Madame Pratchett. Dans son excitation, elle trépignait sur place. « Allez-y » hurlait-elle, « corrigez-le, donnez-lui une leçon !»«
Baissez-vous, mon garçon !» ordonna M. Coombs. « Et restez baissé, vous aurez droit à un coup supplémentaire chaque fois que vous vous redresserez. »«
Ça lui apprendra !»
hurla Madame Pratchett.
« Ça lui apprendra, ce petit morveux !»
Je n'en croyais pas mes yeux, j'avais l'impression d'assister à quelque horrible pantomime. Cette scène de violence était d'autant plus insupportable que nous étions contraints d'y assister et par-dessus le marché, la présence de Madame Pratchett en faisait un véritable cauchemar.
« Swish, crac !»
fit la canne.
« Aïe, aïe, aïe !»
hurla Thwaites.
« Plus fort !»
glapit Madame Pratchett.
« Tannez-lui le cuir, cinglez-le bien, chatouillez-le, chauffez-lui les fesses, allez, cognez, monsieur le directeur !»
Thwaites encaissa quatre coups et bon sang, M. Coombs n'y allait pas de main morte. Au suivant, fit sèchement M. Coombs. Crispé d'appréhension, le deuxième garçon s'avança à pas lents vers son destin. Je regrettais d'être le dernier de la rangée. Regarder et attendre constituait probablement une plus grande torture que la punition elle-même. La deuxième fois, le numéro de M. Coombs fut identique au précédent. Celui de Madame Pratchett également. Elle continua à glapir durant toute la scène, exhortant M. Coombs à des efforts de plus en plus grands, et le pire, c'était qu'il semblait réagir à ses cris. Il se comportait comme un athlète encouragé par les acclamations de la foule dans les tribunes. Que cela soit vrai ou pas, je suis sûr en tout cas d'une chose, il ne mollissait pas. Mon tour vint enfin. J'avais la tête qui tournait et je voyais trouble lorsque je m'avançais et me courbais en deux. Je me rappelle avoir souhaité que ma mère surgisse soudain dans la pièce en criant « Arrêtez, comment osez-vous traiter ainsi mon fils ?» Mais elle ne vint pas. Tout ce que j'entendis, ce fut l'horrible voix suraiguë de Madame Pratchett qui braillait
« Celui-là, c'est le plus culotté de la bande, monsieur le directeur, faut pas le louper celui-là, cognez ferme !»
Et c'est exactement ce qu'il fit. Quand le premier coup atterrit en claquant comme un pistolet, je fus projeté en avant si violemment que si mes doigts n'avaient pas touché le tapis, je serais sans doute tombé à plat ventre. Je réussis en fait à me retenir sur les mains et à garder l'équilibre. Au début, j'entendis seulement le clac et ne ressentis absolument rien. Mais une fraction de seconde plus tard, la brûlure qui s'irradia à travers mes fesses fut si terrible que j'en eus le souffle coupé. J'expulsai d'un seul coup tout l'air que j'avais dans les poumons. J'avais l'impression, je vous le jure, qu'on m'avait posé un tisonnier rougi à blanc sur la chair et qu'on l'y maintenait appuyé. Le deuxième coup fut pire que le premier, sans doute parce que M. Coombs, maintenant bien entraîné, visait admirablement. Il réussit, du moins me sembla-t-il, à asséner le deuxième coup exactement sur la ligne étroite où le premier avait atterri. C'est déjà assez douloureux lorsque la canne s'abat sur une peau intacte. Mais lorsqu'elle frappe une chair déjà tuméfiée et lacérée, la souffrance est intolérable. Le troisième coup me parut pire encore que le deuxième. Que le rusé M. Coombs ait ou non à l'avance frotté la canne de craie pour obtenir un point de repère sur ma culotte de flanelle grise après le premier coup, je l'ignore. J'ai tendance à en douter, car il devait savoir que cette pratique était fort mal vue des directeurs d'école à cette époque-là. D'une part, elle était considérée comme peu sportive, et d'autre part, elle tendait à prouver que vous n'étiez pas expert en la matière. Une fois le quatrième coup asséné, mon arrière-train tout entier n'était plus qu'un brasier. J'entendis dans le lointain la voix de M. Coombs déclarer « Et maintenant, sortez !» Comme je boitillais à travers le bureau, en tenant mes fesses à deux mains, un caquettement retentit dans le fauteuil placé dans le coin et j'entendis la voix venimeuse de Mme Pratchett.
« Je vous suis très obligé, monsieur le directeur, » disait-elle. « Très obligé. Je pense pas qu'on n'en retrouvera jamais plus dans mes boules magiques, des souris crevées.
» Lorsque je regagnais ma salle de classe, j'avais les yeux brouillés de larmes. Tout le monde me dévisageait, je m'assis avec précaution à mon pupitre, le derrière terriblement endolori. Ce soir-là, après le souper, mes trois sœurs prirent leur bain avant moi. Puis ce fut mon tour, mais comme je m'apprêtais à grimper dans la baignoire, ma mère étouffa un cri horrifié. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » fit-elle d'une voix blanche. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Elle avait les yeux fixés sur mon derrière. Je ne l'avais, quant à moi, pas encore examiné jusqu'à ce moment-là, mais en tournant la tête pour jeter un coup d'œil à mes fesses, je vis les boursouflures violettes qui le zébraient et la chair bleue et tuméfiée tout autour. « Qui a fait ça ? » s'écria ma mère. « Dis-le-moi tout de suite !» Pour finir, je dus lui raconter toute l'histoire devant mes trois sœurs, âgées de 9, 6 et 4 ans, qui se tenaient autour de nous en chemise de nuit, les yeux ronds de stupeur. Ma mère m'écouta jusqu'au bout sans maudire, sans poser de questions. Elle me laissa parler simplement. Et lorsque j'eus terminé, elle déclara à notre nurse « Mettez-les au lit, nounou, je sors. » Si j'avais eu la moindre idée de ce qu'elle s'apprêtait à faire, j'aurais essayé de l'en empêcher, mais je l'ignorais. Elle descendit au rez-de-chaussée, mit son chapeau, puis elle sortit de la maison d'un pas décidé, s'engagea dans l'allée et émergea sur la route. Par la fenêtre de ma chambre, je la vis franchir le portail et tourner à gauche, et je me rappelle lui avoir crié de revenir, mais elle ne me prêta aucune attention. Elle marchait très vite, le menton levé, le dos bien droit, et, à en juger par son attitude, M. Coombs allait passer un mauvais quart d'heure. Une heure plus tard, environ, ma mère revint et monta nous embrasser. « Tu n'aurais pas dû faire ça, lui dis-je, j'ai l'air d'un idiot, moi. » « Là d'où je viens, on ne bat pas aussi sauvagement les petits-enfants, » dit-elle. « Je ne le tolérerai pas. »« Qu'est-ce qu'il t'a dit, maman, Monsieur Coombs ?»« Il m'a dit que j'étais une étrangère et ne comprenait pas la façon dont on dirigeait les écoles britanniques. »« Il était fâché contre toi ?»« Très fâché, » répondit-elle. « Il m'a dit que si je n'aimais pas ses méthodes, je pouvais t'enlever de l'école. » « Et qu'est-ce que tu as dit ?»« Je lui ai dit que c'était bien mon intention, dès la fin de l'année scolaire. Je te trouverai une école anglaise, cette fois. Ton père avait raison, les écoles anglaises sont les meilleures du monde. »« Ça veut dire que je serai pensionnaire ?» demandai-je. « Il le faudra bien, » dit-elle. « Je ne suis pas encore tout à fait prête pour emmener toute la famille en Angleterre. » Je restai donc à l'école de la cathédrale de Llandaff jusqu'à la fin du quatrième trimestre.